Où vivrons-nous demain ? Par Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre le propos de la semaine dernière avec Chloé et sous ce nouveau, on peut dire, format de dialogue qui est tout à fait intéressant et enrichissant. Alors, nous avions parlé la semaine dernière des nouveaux habitats, des coquartiers, aussi des communautés qui créent un nouveau type d'urbanisme avec aussi des modifications au niveau de la vie. Et il s'agit d'un débat, comme nous en avions parlé, qui est central dans la société et qui a été, il faut le dire, éliminé à la fois des médias et aussi des campagnes politiques que nous venons de vivre. Donc, nous reprenons notre sujet, puisqu'en fait, les politiques ne veulent pas s'en saisir. Eh bien, Radio Esprit Occitanie va le saisir tout à fait dynamiquement. Du moins, on l'espère. Alors, je donne la parole à Chloé pour la reprise de cette, on peut dire, discussion, plus que polémique, entre, d'une part, rappelons-le, cet habitat où on vit isolé avec des gens qui se choisissent sur des modes de vie, et puis aussi la mixité sociale qui est imposée par la réglementation, notamment de la loi SRU, et qui est effectivement un contre-modèle, en tout cas un modèle totalement opposé, puisqu'il pense que la société doit être avec des pourcentages de mixité, de variété, à la fois sociale, à la fois ethnique, à la fois culturelle. En fait, nous avons deux oppositions. Alors, nous allons débattre de cela et voir si on peut tirer des conclusions.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, Jean-Pierre me laisse de nouveau la parole dans son émission. Et sans plus tarder, commençons. Nous allons nous intéresser donc aujourd'hui à la question des habitats communautaires que nous allons opposer à celle de la mixité imposée, donc mixité sociale, comme Jean-Pierre vient de le dire. Et je vais encore une fois l'interroger, car Jean-Pierre est un spécialiste d'architecture à ce sujet. Mais pour le cerner, il est important de savoir de quoi on parle. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un habitat communautaire ? On va vous donner la définition que nous entendons avec Jean-Pierre. Pour moi déjà, un habitat communautaire, c'est un lieu d'habitation assez spacieux qui permet d'accueillir un certain nombre de personnes qui ont décidé de vivre ensemble d'une certaine manière, en harmonie. Et vous, Jean-Pierre, comment vous définiriez l'habitat communautaire ?
Eh bien, on appelle ça aussi l'habitat partagé, et je trouve ça tout à fait intéressant. Ce sont des expériences qui sont assez limitées. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y a, on peut dire, un historique beaucoup plus ancien de ce type de vie, quoique la vie en phalanstère remonte au 19e siècle, avec aussi les mêmes prétentions d'un habitat social, d'un habitat qui permet d'avoir la mise en commun de services, dont tout ça est fort intéressant. Alors aujourd'hui, on voit en France cette forme que l'on appelle habitat partagé, ça veut dire ce que l'on partage, c'est des équipements communs. Alors bon, c'est bien connu qu'on peut partager une piscine dans les résidences de luxe, mais dans le cadre de l'habitat partagé, ça va beaucoup plus loin. On suppose que il ne s'agit pas des choses en plus, mais on peut dire qu'on redistribue. Par exemple, on va avoir des appartements plus petits, mais on pourra avoir, par exemple, la chambre qui sert la chambre d'amis, qui peut être une sorte de petite réserve hôtelière, par exemple, hein, dans laquelle les amis peuvent venir, ou la famille de lointaine peut venir loger sans qu'on ait une chambre à disposition dans chaque appartement. Alors ça, tout d'abord. Alors, et puis aussi, donc, quand il s'agit des équipements, on peut supposer qu'il ne s'agit pas uniquement qu'une piscine, mais qu'il peut y avoir du jardinage en commun, avec des ateliers où l'on peut travailler, des espaces de jeu aussi, une sorte de garderie, etc. Voilà, donc c'est ce principe que l'on appelle aux États-Unis, enfin dans les pays anglo-saxons, condominium, et sous différentes formes. Et aujourd'hui, cet habitat partagé, dont on parle beaucoup depuis des années, mais qui a de la difficulté à voir le jour. Mais ça nous semble, des expériences en tout cas, qui sont intéressantes.
Alors oui, pour plus de précision, ce mode d'habitation, il est également appelé cohabitat et il gagne en popularité depuis 40 ans. Donc le cohabitat moderne est apparu en Europe du Nord et s'est développé aux États-Unis et en Angleterre au début des années 90. Donc aujourd'hui, les lieux de cohabitat sont surtout peuplés par des personnes âgées ou même par toute personne ayant des besoins particuliers pour qui ça peut être donc une solution très intéressante. Et il peut également s'agir de lieux destinés aux personnes soucieuses de l'environnement, par exemple. Et alors, on parle plus d'éco-village, comme on avait dit la dernière fois.
Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, l'expérience que je connais pour y avoir séjourné, c'était à Toronto. C'était ce qu'on appelle donc un condominium. Alors, le principe est assez amusant parce qu'il ne correspond pas à nos normes. Ça a été dessiné par un architecte, un jeune architecte sortant de l'université. Comme vous savez, l'université anglo-saxonne, c'est l'université de tous les savoirs. Donc, il n'y a pas comme en France les écoles d'architecture, les écoles polytechniques, centrales, etc. Mais tout est dans le même lieu. Donc, dans ces universités, donc, il y a une cohabitation des étudiants, et donc les étudiants en architecture qui ne sont jamais très riches quand ils commencent leur travail, bien ils sont confrontés à des amis qui sont économistes, qui sont traders et qui gagnent de l'argent. Alors on continue d'être amis à travers les associations et on décide très rapidement, donc il s'agit de jeunes personnes qui ont de l'argent, de créer un habitat communautaire. On est donc à l'envers de la résidence pour personnes âgées et on met en commun, justement, à la salle de sport. On parlait de piscine d'hiver dans le cas de ce que j'avais vu à Toronto. Et c'était ce principe où il y avait donc des anciens étudiants riches, trentenaires, qui cohabitaient ensemble et sur un projet élaboré par un de leurs architectes amis et qui se faisait payer ses honoraires, dans le cas présent, en ayant un appartement.
Alors voilà pour ces définitions un peu étalé, on va dire, de ce qu'est l'habitat communautaire. Dans un second temps, qu'est-ce qu'on entend par mixité imposée ? Donc c'est l'autre question qu'on traite. Et je pense qu'on est un peu plus d'accord sur le sens de ce qu'est la mixité dans l'habitation. Pour moi, on entend par là le regroupement, donc plutôt imposé, de certaines personnes, souvent d'une certaine classe sociale, dans des structures architecturales. Et on avait d'ailleurs parlé de l'exemple des HLM en off avec vous, Jean-Pierre. Mais je vous laisse compléter cette définition.
Oui, alors ça part toujours de bons sentiments. L'idée, c'est de dire il ne faut pas qu'il y ait des ghettos et des lieux comme les grands ensembles. Il s'agirait justement de disperser dans la population tous les types sociaux. Donc, l'habitat étant le support de cette politique, et donc ça a été imposé. C'est une loi qui a été faite par le ministre communiste Guesso, la loi Guesso qui s'appelle aussi la loi SRU, et il y a évidemment plusieurs décennies de cela, et elle a été appliquée d'une manière systématique dans toutes les villes françaises où il fallait qu'il y ait un quota de logements sociaux. Alors, comme je vous disais, ça part de bons sentiments, ça part surtout d'un principe que que la vie communautaire est assez désastreuse et qu'il faut que les gens se mélangent. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse que nous venons de voir avec les villages dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc, il s'agit d'une autre conception du monde et sur des bases qui paraissent, pas politiquement correctes, mais en tout cas pleines de bonnes intentions, comme j'ai déjà dit.
Et bah justement, vous abordez le sujet, Jean-Pierre, on va commencer sans plus tarder par la première grande question. Quel point fort et quel point faible on peut retenir de l'habitat communautaire ?
Alors, effectivement, le problème de l'habitat communautaire, c'est qu'il y a une tendance qui pourrait être, on peut dire, une tendance extrême, qui serait la coupure totale de la société. C'est-à-dire sous le fait que des gens se réunissent pour mettre en commun des activités, dont ce qui est tout à fait sympathique, parce que ces activités, on peut dire, elles prennent à la place d'absence d'activités. Donc on a quelque chose qui est tout à fait positif. Alors le côté qui pourrait être négatif et extrême, c'est que des gens vivent en communauté, en autarcie, en communauté fermée, et je pense notamment aux enfants, des enfants qui seraient qui ne seraient plus scolarisés dans les écoles communes, les écoles communales, dans lesquelles justement cette vraie mixité existe, ou du moins est censée exister, et on aurait ce qui se passe avec des sectes qui éduquent uniquement dans une idéologie, une philosophie qui peut être extrême, et on connaît les dérives les dérives sectaires. Donc il y a des organismes qui surveillent cela, et justement c'est une question qui est posée et qui est très importante.
C'est viable selon vous ce mode d'habitat?
C'est viable, justement, mais pas les extrêmes, parce que les extrêmes, effectivement, ça exclut des gens de la société, et surtout le problème, c'est les enfants, enfin les adolescents aussi, qui ne connaissent que les gens qui sont autour d'eux et sont coupés totalement de la diversité sociale. Alors, on sait qu'on est quelque chose qui est... ambigu, parce que à la fois on a un besoin communautaire d'être comme la famille, on a besoin aussi de rencontrer des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, et puis de notre côté on sait que ça peut devenir étouffant, et ça peut être aussi le rejet de tout ce qui est extérieur. Donc on a à travers l'habitat les véritables problèmes fondamentaux de la société, et je reviens aussi sur ce que je disais au début, on se demande pourquoi ce problème qui nous paraît très important n'est pas un problème qui est posé, on peut dire, collectivement dans les médias et par le débat politique.
Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors,
voilà, exactement.
C'est vrai que...
on est en train de remplacer ce manque.
Voilà, c'est vrai que malgré le fait que ce soit des sortes de communautés, on peut dire, hein, qui pensent à bien, qui tentent de construire un monde meilleur, même si ça peut faire un peu utopiste, qui est non-violent, pacifiste, respectueux de l'environnement, on peut déceler, oui, en effet, certains points négatifs, comme le fait qu'ils ont un peu tendance à se renfermer sur eux. D'ailleurs, je recite cet exemple de la monnaie un peu...
oui,
comment dire,
c'est tout à fait intéressant.
Des éco-villages. Mais pour le coup, ce mode d'habitat est choisi, donc c'est censé bien se passer. Et c'est bien parce qu'on glisse sur notre deuxième grand axe, mais avant, on va peut-être se faire une petite pause musicale pour souffler un peu, que vous avez choisi, Jean-Pierre. Son.
Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
Vous êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Où vivrons-nous demain ? Voilà, on est de retour avec Jean-Pierre, c'était son choix musical On the Road Again. Et maintenant, on va se concentrer sur les points forts et les points faibles de la mixité sociale dans l'habitat, qui est souvent imposée, comme on le disait. Donc, si on s'appuie toujours sur notre exemple des HLM, donc du logement social, il faut rappeler que son essor est plus vieux qu'on ne le pense, car il date de la révolution industrielle, durant laquelle le nombre d'habitants des villes se multiplie. Et donc, par manque de place et de moyens pour certains, il faut construire ce type d'habitation où on regroupe le plus de gens possible. L'habitation à loyer modéré telle que nous la connaissons aujourd'hui a connu son essor durant toute la durée du XXe siècle. Alors, je vous laisse la parole, Jean-Pierre.
Oui, tout d'abord, je voudrais dire que ma position n'est pas celle de ma corporation, parce que ma corporation d'architectes et d'urbanistes pense qu'ils détiennent le pouvoir sur la ville et sur le sort des gens et l'organisation sociale à travers le logement et à travers d'ailleurs ce qui est construit. Donc je pense que ça c'est une prétention un peu ridicule et qu'il s'agit de faire les choses le mieux possible, mais que la société ce sont des choix politiques qui ne sont pas des choix justement des choix architecturaux. Donc là il y a je pense, une inversion de la responsabilité. Et ça me paraît assez fâcheux parce qu'on attribue au logement des responsabilités qui ne sont pas vraiment celles-là. Bon, par exemple, le fait qu'on démolisse les grands ensembles aujourd'hui en disant que ce sont les grands ensembles qui sont la cause des problèmes, les émeutes, les incivilités, les trafics divers dans les quartiers. Donc démolissons les tours, remplaçons-les par des jolis petits immeubles de 3 étages ou des maisons individuelles et le bonheur et la liberté et la paix sociale va arriver. Bon, tout ça est d'une naïveté absolue. Et il faut dire que les architectes le pensent parce que ça leur donne un pouvoir qu'ils n'ont pas Et les politiques, ça les empêche de réfléchir et de penser. Et ils se débarrassent justement de cette responsabilité sur les architectes. Donc je pense que les problèmes sont ailleurs. Ce sont des problèmes qui sont liés à multi-problèmes. C'est pas forcément notre sujet de parler d'immigration, de parler de la drogue, des trafics d'armes, etc. En tout cas, je pense qu'il faut dissocier les deux. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas de cette mixité sociale, c'était le fond de l'histoire. C'est de dire, du moment que l'on va démolir les grands ensembles et les remplacer par des petits morceaux gentils et propres qui vont être disséminés dans tout l'espace social, nous aurons une sorte de paix et d'harmonie sociale. Bien sûr, si on dissémine les problèmes de trafic de drogue, ils seront, comme vous le savez, ils iront ailleurs, mais vous n'aurez pas supprimé les conflits, les tueries et l'argent sale qui est lié au trafic de drogue. Donc le problème, il est à la société, et ce n'est pas encore une fois notre sujet, et c'est complètement ridicule, je crois, et irresponsable de l'appliquer au logement. Alors pour revenir à cette histoire de mixité sociale, ça part sur cette bien-pensance de penser que si vous mettez des gens qui sont défavorisés à côté des gens qui le sont plus, les gens favorisés auront une bonne influence et les gens défavorisés vont leur ressembler. Alors on pourrait aussi penser que ça peut être à l'inverse, s'il y a des influences les uns sur les autres. Bon, donc tout ça est assez ridicule. Bon, alors, par contre, c'est vrai que si on prend à l'opposé uniquement des quartiers qui vont être réservés aux HLM et puis d'une autre partie des quartiers suivant les autres classes sociales, on a effectivement un exemple de partition sur le territoire qui n'est pas non plus satisfaisante parce que les services communs auront tendance à être attribués, ce que l'on voit d'ailleurs dans les centres-villes. Vous avez les théâtres, vous avez les musées, vous avez les administrations, d'ailleurs tous les lieux importants avec tout ce qui vient après, les cafés, etc. Et puis on a effectivement des lieux qui n'ont pas cela. Donc je prendrai le problème à l'inverse. Pourquoi, au lieu de dire nous allons mettre des HLM dans les centres-villes, ça coûte très très cher parce qu'il faut acheter des immeubles anciens et c'est toute une histoire compliquée. Pourquoi justement le pouvoir du politique, c'est la possibilité d'implantation des lieux collectifs. Alors il y a ceux qui existent effectivement du patrimoine, on ne va pas découper Saint-Cernin en tranches pour la disperser dans les quartiers de Toulouse, mais il y a par exemple la politique, pourquoi le théâtre de la ville de Toulouse a été remplacé au centre-ville, dans un quartier où il est impossible d'accéder, à la place de l'ancien conservatoire, je pourrais prendre un grand nombre d'institutions. Par exemple, aux États-Unis, on sait que les universités sont dans des villes universitaires et on sait que les villes administratives ne sont pas aussi dans la ville économique, et on pourrait avoir une dispersion sur le territoire, effectivement, où en est cela. Donc ça, c'est une politique plus complexe, et on préfère justement se servir de l'habitat.
Et bien justement, en parlant de politique, le retour, on va passer au dernier axe de notre sujet. Comment trouver un juste milieu entre les habitats communautaires et la mixité dont on parlait dans la société? Donc comment faire la part des choses entre les cohabitats qui sont idéal pour certains et le fait de regrouper diverses personnes un peu sous la contrainte dans des lieux d'habitation précaires?
Eh bien, d'abord, je dirais que la première des choses, c'est de créer l'abondance. Est-ce qu'on fait des quotas, par exemple, de voitures en disant il va y avoir un nombre de Ferrari qui va être attribué, un certain pourcentage qui va être attribué pour les pauvres? Tout le monde rigolerait de cela. Mais par exemple, pour les voitures, vous avez des voitures d'occasion, vous avez des voitures des petits formats, bon marché, des voitures très très chères. Donc, il y a, on peut dire, un choix. Je prends cet exemple parce que effectivement, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et pourquoi dans le logement, on n'aurait pas une offre assez importante? Et je pense que d'abord, le problème du logement, c'est un problème de l'offre et de la demande aujourd'hui. Pour des raisons, des fausses raisons écologiques, on construit de moins en moins. Donc on a un problème d'accession des classes moyennes. Et évidemment, les gens riches, ils n'ont pas de problème. Mais les gens pauvres, ils ont encore plus de problèmes. Donc si on avait un choix plus large, et on aurait forcément une mixité qui ferait qu'on ait des logements plus grands, on a des logements plus ensoleillés, on a des logements avec vue, d'autres qui le sont moins. Donc on aurait toute une panoplie qui permettrait justement une hiérarchisation. Et ce qui me semble fondamental dans le choix du logement, c'est justement la liberté pour chacun d'habiter à côté de qui il veut. Alors, si on a envie d'habiter avec des gens qui vous ressemblent, mais aussi, on peut dire, bon, c'est un peu gavant d'avoir des gens qui me ressemblent, et j'aimerais justement avoir des gens différents pour avoir une vie un peu plus fantaisiste que celle monotone d'avoir des clones de moi-même. Donc, on aurait le choix, mais on ne peut pas non plus interdire aux gens de s'associer entre gens qui leur ressemblent. Si, par exemple, en vacances, il y a des camps de vacances pour les gens de je ne sais pas, des postes ou des communications, il y a des gens, et ben, ils vont se retrouver avec les gens avec qui ils travaillent. Pourquoi pas? Et il y a des gens, au contraire, qui vont aller dans des clubs où ils vont rencontrer d'autres couches sociales. C'est tout à fait possible, ça me semble important. Alors, je marque un bémol. Autant ça me paraît important qu'il y ait une mixité dans l'enseignement au niveau des enfants, qu'ils aient la possibilité d'être avec des enfants de milieux différents et d'origine culturelle aussi différente. Je pense qu'au niveau du logement, on devrait avoir cette liberté. Mais pour qu'il y ait cette liberté, il faut, un, qu'il y ait une offre qui soit abondante, et deux, évidemment, une offre abondante et accessible à tous. Donc on est au cœur du problème, justement, de l'offre du logement. Est-ce que ça vous satisfait, Chloé, cette réponse?
Ça me satisfait tout à fait, mais c'était un long débat dont on pourrait parler longtemps. Mais je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de la question, là, Jean-Pierre. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin.
Eh bien, le mot de la fin, effectivement, c'est celui de la liberté. Et je pense que on l'a pas assez entendu dans cette campagne présidentielle dans laquelle il y a eu des affrontements avec une grande virulence, mais dans une société comme la nôtre, la France, qui est un pays pourtant paisible, agréable à vivre. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui envient nos villages, nos villes, nos campagnes, et il est très curieux qu'un problème aussi essentiel qui est le problème central dans la vie de chacun ait été délaissé pour des disputes picrocolines, pourrait-on dire. Voilà. À la semaine prochaine pour un autre débat. C'était Où vivrons-nous demain ? Merci à Chloé qui a été la questionneuse remarquable de cette émission et qui va continuer, on l'espère, dans les émissions suivantes. Merci à l'équipe technique également. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous, et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?